Le journal avec vous, Christophe Beck. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Accord entre l'Europe et l'Italie sur le sort des 113 migrants retenus depuis une semaine sur un navire italien en Sicile. 5 pays dont la France acceptent de les accueillir. Les migrants ont débarqué. Après l'émotion, place à l'enquête et aux responsabilités concernant la mort de Steve Canisso dans les eaux de la Loire. La ville de Nantes explique pour sa part que le bout du quai Wilson où a lieu la charge policière relève de la responsabilité de l'État. Alerte aux cigarettes empoisonnées à Roanne dans la Loire. Nous entendrons le procureur de la République de Roanne. Malgré la canicule, le blé tendre se porte à merveille, annonce une moisson record. Le téléphone sonne, Yves Decamp s'intéresse aux abeilles ce soir.
Et oui, elles sont les sentinelles de l'environnement, indispensables à l'agriculture. Elles connaissent chaque année un taux de mortalité anormal, victime du changement climatique et des pesticides, entre autres, mais pas seulement. Alors comprendre d'abord, agir ensuite. Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000.
Au Brésil, le président Bolsonaro annule un rendez-vous avec Jean-Yves Le Drian, mais trouve le temps de se faire couper les cheveux. Les médias brésiliens disent leur inquiétude. Nous terminerons avec un coup d'œil sur Maradona, le documentaire consacré à la star argentine qui sort ce soir sur les écrans.
France Inter.
Il aura fallu une semaine pour aboutir à un accord sur la ventilation des 116 migrants retenus sur le Gregoretti, un navire des gardes-côtes italiens stationné en Sicile. Les migrants avaient été secourus jeudi dernier au large de Malte. Depuis, ils étaient cantonnés sur leur navire. Dans l'attente de cet accord, 5 pays européens, dont la France, ont répondu favorablement. La France s'est engagée à accueillir 30 de ces réfugiés. À Rome, les explications d'Antonino Gallofaro.
Problème résolu, se réjouit Matteo Salvini. Les migrants du navire Gregoretti peuvent descendre vu qu'ils ne seront pas accueillis par l'État italien. Le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, brandit l'annonce comme une victoire. Il montre à ses militants qu'il n'a pas cédé aux autres pays européens qui ne veulent pas, selon lui, ouvrir leurs ports. Alors, les ports italiens restent fermés. Il l'a rappelé sur son média préféré, Facebook.
Ils sont tous doués pour faire les généreux avec les ports des autres. Aujourd'hui encore, le ministre allemand de l'Intérieur a invité l'Italie à ouvrir les ports aux ONG. Eh bien non, mon ami. Maintenant, tout ne peut pas être résolu en Italie. Et nous serions le camp de réfugiés d'Europe? Non. On arrive en Italie si on en a la permission. Je ne sais pas si cela me coûtera un autre procès, des avocats, des polémiques, des articles de presse. Tant pis.
Depuis l'été dernier, le ministre a en effet fait l'objet de plusieurs enquêtes pour séquestration de personnes. Mais en février, le Parlement a voté contre la levée de son immunité, grâce notamment au vote du mouvement 5 étoiles, son allié au gouvernement et pourtant très critique de sa politique migratoire. Rome, Antonino Gallo, Faro France Inter.
Et le problème des migrants au large de l'Italie reste entier. Dans un communiqué publié sur Facebook cet après-midi encore, Matteo Salvini annonce qu'un autre navire transportant 40 migrants serait privé d'accès aux eaux italiennes. Après la mort de Steve à Nantes, place à l'enquête, ou plutôt aux enquêtes administratives, judiciaires, pour déterminer les responsabilités dans ce drame. Car pour l'instant, on se renvoie la balle entre police, ville, État. La ville de Nantes s'est exprimée aujourd'hui pour la première fois sur l'organisation de cette free party sur les quais de la Loire, dans le cadre de cette fête de la musique. Gilles Nicolas est adjoint au maire de Nantes en charge de la sécurité, de la tranquillité publique. Il explique qu'une partie des fameux sound systems était installée en bout de quai sur le port autonome qui relève de la responsabilité de l'État.
Pour les sound systems, on ne délivre aucune autorisation car tout ce qui est les free parties, ça retourne de la police spéciale du préfet. Alors bien que juridiquement non compétente en matière de free parties, la ville reconduit comme chaque année un dispositif de prévention et de sécurité. Car pour les grands événements festifs, et notamment au hangar à bananes, qui est sur le territoire de la commune, nous avons pris, depuis de nombreuses années, différentes mesures. Il y a un garde-corps tout le long de la Loire, c'est un site où la lumière a été renforcée, où il y a des échelles de secours pour descendre en Loire, où il y a des bouées de sauvetage. Donc quand c'est sur le territoire de la municipalité, nous prenons toutes les mesures adéquates. Par contre, sur le quai Wilson, ce n'est pas un terrain du ressort de la ville. C'est un terrain du ressort du port autonome et donc de l'État.
Autre responsabilité pointée, celle de la police, pointée du doigt par la classe politique et les soutiens de Steve. Le secrétaire général du syndicat des commissaires de police, David Lebars, c'était l'invité du journal de 13h sur France Inter. Pour lui, il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives et le rapport de l'IGPN n'est qu'un premier élément qui doit être complété par les autres enquêtes. David Lebars, ce midi sur France Inter.
L'IGPN ne dit qu'une chose, elle ne dit qu'elle ne trouve pas de lien direct entre la mort du jeune Steve et l'intervention de police. Ça n'exclut pas pour autant qu'il puisse y avoir d'autres éléments qui puissent, ou pas, par la suite, établir qu'il puisse y en avoir un. Je vous en donne deux ou trois à titre d'exemple. Et ça, c'est l'enquête judiciaire qui le dira. On pourrait déjà avoir la décence d'attendre les résultats de l'autopsie de ce jeune homme pour savoir dans quelles conditions il est décédé. On peut également considérer le fait que le lieu où le corps a été retrouvé peut avoir aussi un lien par rapport ou pas à l'intervention de police. Il y a toute une série d'éléments qui fait que il faut rester patient, il ne faut pas contester ou dénier le pouvoir des autorités judiciaires administratives pour savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'on va avancer vers la vérité dans les semaines qui viennent. Il y a une différence entre une intervention de police pour fermer une musique, où là on pourrait considérer que c'est un peu excessif, puis il y a une différence qui consiste à envisager le fait que la police n'a fait que répondre à des agressions. Après, effectivement, il y a un effet souricière, il va y avoir une responsabilité des organisateurs. Que faisaient des camions sans système au bord de la Loire, au bout d'un quai, sans aucune protection ?
Enquête judiciaire, administrative et peut-être parlementaire, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, invite les députés et sénateurs de son département à réclamer cette enquête parlementaire. Par ailleurs, plusieurs appels à rassemblement circulent sur le net pour rendre hommage à Steve Canisso. Un rendez-vous a été annoncé samedi à 13h au centre-ville de Nantes. On vient de l'apprendre, 3 personnes dont 2 détenues ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes, criminels et écroués. Elles sont soupçonnées de préparer des actions violentes. Les 3 hommes ont été mis en examen le 26 juillet et pour l'instant, on ignore quelle cible était visée. Des cigarettes empoisonnées pour détrousser son interlocuteur. Le phénomène inquiète à Roanne, dans la Loire, où déjà 6 victimes ont été recensées en moins d'une semaine. Une enquête a été ouverte. Des inconnus abordent leurs victimes, engagent la conversation avant de leur proposer une cigarette qui s'avère empoisonnée. Les 6 victimes ont été hospitalisées, leurs jours ne sont pas en danger. Mais on s'interroge sur la nature de la substance qui, selon France Bleu Saint-Étienne-Loire, se révèle 400 fois plus puissante que le cannabis. Le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, s'est exprimé cet après-midi sur cette affaire.
Le modus operandi est exactement le même à chaque fois. Donc on peut partir du postulat qu'il s'agirait très vraisemblablement des mêmes auteurs, entre 2 et 4 personnes selon les moments où sont commis les infractions. Mais le modus operandi, le mode opératoire est à chaque fois le même, identique. Des jeunes qui prennent attache avec des jeunes, qui commencent à discuter. Un petit climat de confiance s'instaure et puis on partage une cigarette qu'on vient de rouler. Et tout de suite après avoir fumé ces cigarettes, elles vont se retrouver dans un état extrêmement particulier, un état second, soit un état d'excitation, soit au contraire un état de léthargie, pour ne pas dire même un état quasi comateux. Et les jeunes gens qui ont proposé donc les cigarettes en profiteront pour les dépouiller, pour leur prendre notamment tous les effets personnels qu'elles avaient sur elles, téléphone portable, quelques monnaies, etc., etc.
Un entretien réalisé par Alexandre Berthaud de France Bleu Saint-Étienne-Loire. La végétation de Générac dans le Gard restera sous surveillance pendant de longues heures encore. Le feu qui a parcouru 488 hectares est fixé, mais toujours pas éteint. 123 véhicules de pompiers restent engagés. Malgré 2 canicules et une sécheresse bien installée, le blé tendre se porte au mieux en France. Le cabinet Agritel anticipe une moisson de 15% plus généreuse que l'an passé, qui en ferait la 2e moisson la plus abondante depuis l'an 2000, après le record de 2015. Manuel Ruffès, bonsoir.
Bonsoir.
Cette récolte devrait permettre de rattraper les moins bonnes années.
Mais oui, et surtout 2016, souvenez-vous de cette moisson catastrophique. L'an dernier, c'était moyen, 34 tonnes environ. Et bien cette année, selon les projections, on se rapproche des 40 tonnes de blé tendre, avec en particulier les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine qui battent des records. Et tout ça, explique Nathan Cordier, responsable des analyses de marché pour Agritel, eh bien c'est justement grâce à cette météo.
C'est dû finalement aux très bonnes conditions que le blé a pu avoir lors de l'ensemble de son cycle végétatif, des conditions relativement sèches au cours du printemps qui ont limité, on va dire, le développement de maladies fongiques, bien qu'on ait eu quand même une petite phase de stress avec la canicule du mois de juin, mais au final qui n'aura pas eu d'impact majeur sur le rendement en blé.
Voilà, pas de conséquences puisqu'on parle de rendement de 78 quintaux à l'hectare en hausse de 12%. Et la qualité est aussi au rendez-vous, notamment en taux de protéines, et ça c'est bon pour l'export.
Ce qui est important à préciser, c'est que 1 tonne sur 2 de blé tendre produite en France est exportée. Elle est exportée vers 2 grandes destinations, soit les pays intracommunautaires, donc nos pays voisins de l'Union européenne, ou soit vers les pays tiers. Cette année, nous devrions exporter un volume important de blé tendre vers les pays tiers, et notamment vers des pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest.
Et pour les agriculteurs, une telle moisson, ça fait du bien au moral, mais aussi au portefeuille.
Une nouvelle commande pour la SNCF, de la SNCF pour Alstom. Il s'agit de 12 rames de TGV Océane, des rames duplex, destinées aux liaisons vers Nantes, Rennes ou Nancy-Metz. Cette commande complète celle de 55 TGV en cours de livraison jusqu'à 2020 et celle de 100 rames de TGV du futur, dont les livraisons débuteront en 2023. Transavia, la filiale low cost d'Air France KLM, va pouvoir se développer. Les pilotes SNPL ont ratifié à une large majorité ce matin une proposition de leur direction qui permet de faire voler plus de 40 avions chez Transavia. Fini les trottinettes électriques abandonnées sur les trottoirs ou les chaussées parisiennes. Depuis hier, elles doivent intégrer des emplacements matérialisés. La mairie de Paris avait annoncé la mesure début juin. Elle est applicable depuis hier. Un rendez-vous manqué qui sonne comme une provocation. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, avait rendez-vous lundi après-midi avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en tournée en Amérique latine. Bolsonaro a finalement annulé le rendez-vous pour des questions d'agenda, mais a trouvé le temps de se faire couper les cheveux et de s'afficher pendant 12 minutes sur Facebook. Les médias brésiliens commentent sévèrement ce rendez-vous annulé qui pourrait compromettre, selon eux, la ratification du traité de libre-échange. Sarah Cozzolino.
12 minutes de vidéo qui pourraient mettre en péril 20 ans de négociations. Le quotidien Folha de São Paulo relaie l'inquiétude de diplomates brésiliens. Selon eux, l'attitude de Jair Bolsonaro fragilise l'accord commercial entre le Mercosur et l'Union européenne. Du côté du gouvernement brésilien, on explique que Jair Bolsonaro travaille de 4h du matin à minuit. Il faut donc bien qu'il trouve un moment pour se couper les cheveux entre les deux. Le journal O Globo attribue plutôt cette annulation à une vengeance de la part du président brésilien, contrarié que le ministre français ait rencontré des défenseurs de l'environnement, ses opposants, la veille. Côté français, le geste est perçu comme une énième marque de mépris. Le chef d'État brésilien avait déjà averti qu'il ne se soumettrait pas aux pressions françaises, persuadé qu'il serait attaqué sur les questions environnementales. Le ministre français a terminé sa visite par une rencontre avec le gouverneur de l'État de São Paulo, un État qui respecte l'accord de Paris, selon les mots de Jean-Yves Le Drian. Le gouverneur est ouvertement en désaccord avec le président brésilien. Il serait un de ses concurrents à la prochaine élection en 2022. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour France Inter.
Faut-il s'inquiéter du retour d'une frontière entre les deux Irlandes? Le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenté de convaincre les chefs de parti d'Irlande du Nord que même avec un Brexit dur, cette frontière ne reviendrait pas. Argumentation difficile à tenir puisqu'en même temps, le nouveau Premier ministre rejette le filet de sécurité proposé par l'Europe pour éviter cette frontière. À Londres, les explications de Marina Daras.
Après une série de déconvenues en Écosse et au Pays de Galles où le Premier ministre s'est fait huer à deux reprises, Boris Johnson a su trouver un peu de réconfort auprès de ses alliés du DUP, le parti unioniste nord-irlandais. Arlene Foster, la chef de file du DUP, a rappelé que son parti soutenait le Premier ministre et exigeait l'abandon du backstop qu'elle considère comme un défaut persistant et fondamental de l'accord de sortie négocié par Theresa May. Mais sa rivale, la présidente du parti nationaliste Sinn Féin, Marie-Lou McDonald, a quant à elle averti le Premier ministre qu'un Brexit sans accord serait à son avis catastrophique pour l'économie de l'île et pour les accords de paix du vendredi saint, puisque Westminster reprendrait le contrôle du pays le temps de rétablir une assemblée nord-irlandaise. Elle a également annoncé qu'en cas de Brexit sans accord, le 31 octobre, elle réclamera un référendum sur un rattachement des 6 comtés d'Irlande du Nord à la République d'Irlande. La perspective d'un Brexit sans accord continue donc de déchirer le royaume et accroît les menaces de dissolution. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Et puis parallèlement à son déplacement en Irlande du Nord, Boris Johnson a dépêché à Bruxelles un conseiller spécial pour obtenir justement l'abolition de ce fameux backstop. En Russie, Vladimir Poutine ordonne à l'armée de prendre part au combat contre les gigantesques feux de forêt qui ravagent depuis des semaines la Sibérie. Les organisations de défense de l'environnement s'étaient alarmées du manque de réponse du pouvoir russe face à cette catastrophe écologique. Une légende du football sur les écrans de cinéma, Maradona, sort aujourd'hui en salle à la réalisation Asif Kapadia, déjà auteur de Senna sur la carrière du pilote de Formule 1, Ayrton Senna, et Ami sur la vie de la chanteuse Amy Winehouse, film pour lequel il avait reçu un Oscar. Avec Maradona, Asif Kapadia revient surtout sur la carrière napolitaine du joueur, celle de tous les excès, maîtresse, drogue, mafia. Pour le journaliste Alexandre Juillard, auteur d'une biographie intitulée justement Maradona, l'Argentin a toujours voulu faire beaucoup de choses, mais il a fini par se brûler les ailes.
C'est quelqu'un d'autodestructeur, mais c'est quelqu'un en fait qui est très sensible et qui en fait a été très rapidement starifié dans son pays, en Argentine, puisque dès qu'il est joué dans les équipes de jeunes Argentino Junior, là, il avait 7-8 ans et déjà c'était déjà une star. Il a tout de suite attiré les regards et donc petit à petit, en fait, cette pression, il l'a ressentie très tôt. Et c'est très tôt aussi devenu un espèce d'outil politique pour la dictature militaire argentine. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de pression sur les épaules et qui a toujours voulu faire beaucoup de choses pour son pays, l'Argentine, et donc qui a fini par se brûler les ailes. Quand il arrive à Naples, il se sent chez lui, en fait. Il a l'impression de revenir à un football très populaire, avec beaucoup de passion autour de lui, et donc il redevient petit à petit le joueur qu'il a été, et bien évidemment dans un contexte assez explosif à Naples, où il brille sur les terrains, puisque c'est aussi lorsqu'il est à Naples qu'il devient champion du monde avec l'Argentine, donc il brille sur les terrains, mais à côté, il se perd de plus en plus.
Voilà Maradona qui a été présenté hors compétition au dernier festival de Cannes.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Sébastien Léas, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Des averses et des orages sur le sud-ouest.
Oui, des averses vont déborder d'Espagne et aborderont les Pyrénées-Atlantiques et les Landes en fin de nuit. En matinée, le risque d'averses va se généraliser à tout le sud de la Garonne et ces lignes d'orage vont ensuite glisser vers Midi-Pyrénées. L'après-midi, c'est essentiellement le Tarn, l'Aveyron et la Lozère qui seront touchés par ces averses et ces orages. L'Aquitaine retrouvera un temps globalement sec l'après-midi avec des éclaircies, mais une nouvelle dégradation orageuse arrivera en fin de journée. Sur le reste du pays, hormis quelques averses isolées sur les Alpes, voire la vallée du Rhône, le temps sera calme, le soleil sera généreux, surtout le matin, alors que les nuages seront un peu plus nombreux l'après-midi. Et puis sur le nord-ouest, il faudra parfois être patient pour retrouver de belles éclaircies, mais l'après-midi sera plus lumineux. Sur le littoral, on aura même un soleil radieux.
Avec des températures estivales presque partout.
Oui, les températures seront même au-dessus des valeurs de saison, même si les maximales seront un peu juste dans le sud-ouest, surtout sous les averses. Demain après-midi, il fera 21 degrés à Brest et au Havre, 25 degrés pour Lille et Bordeaux, 27 degrés à Metz, Reims et Clermont-Ferrand, 28 degrés pour Paris, Le Mans et Besançon. On ira jusqu'à 29 degrés à Lyon et Perpignan, 30 degrés à Marseille et Bastia, et on aura même des pointes à 34 voire 35 degrés dans le sud-est.
Merci Sébastien Léas.